Salut, c'est Wally Visage Japon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Visage Japon Live. Alors moi, qu'est-ce que j'ai comme background, comme passé en fait pour venir ici? Alors j'ai essayé plein de choses. D'abord j'ai eu un bac S avec 10.00, donc il n'y a pas vraiment de... C'était pas super comme départ à la base. Et ensuite, je me suis inscrit en DEUG, puisque à l'époque, la licence 1 et 2, ça s'appelait DEUG, en DEUG MIAS, mathématiques et informatique appliquée aux sciences, ou un truc dans le genre. J'ai glandé pendant un an. Je me suis dit, allez, cette année, enfin, je vais retaper, mais cette fois-ci, je vais vraiment bosser. Et j'ai refait presque la même chose, sauf que j'ai bossé un tout petit peu plus. Ça n'a pas marché, hein, évidemment. Et je me suis retrouvé sans établissement, mais vu que j'avais un petit job à côté, ça m'a permis d'économiser un petit peu et de partir pour la première fois au Japon. Arrivé au Japon, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, on va dire, parce que c'était au-delà de mes espérances, au-delà de mes attentes. Et donc, je suis devenu un vrai drogué du Japon. Je voulais plus rentrer. Je suis parti à l'immigration pour savoir s'il y avait moyen de rester sur place un peu plus longtemps. J'ai vraiment essayé pas mal de trucs. Enfin, il m'est arrivé plein d'aventures de fou là-bas. Et en revenant, j'avais qu'une chose en tête, c'était revenir. Seulement, voilà, le problème, c'est que j'avais plus de sous. Et j'avais même pu où m'inscrire. Pendant un an, j'ai un petit peu rien foutu, à part essayer d'apprendre le japonais par moi-même, avec des livres, en rencontrant des japonais là où j'habitais, donc à Paris, en région parisienne, par Skype. J'ai un petit peu tout essayé en fait cette année, et ensuite je me suis inscrit en BTS, j'ai fait un BTS informatique de gestion que j'ai pas eu la première année, donc j'ai pas eu, et il m'a manqué quelques matières, et je me suis dit bon, j'avais pas des notes super dégueulasses, en fait j'avais la moyenne partout, sauf... en projet PTI, donc projet de technique informatique, j'ai eu un 1 sur 20. Et en l'autre matière, c'était quoi? C'était projet. Ouais, c'était le projet en fait, coefficient 7 où j'ai eu 3. Donc voilà, j'ai eu la moyenne partout, sauf sur des matières à haut coefficient, qui fait que bon, j'ai dû retaper. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire une licence pro. J'ai trouvé un établissement, mais malheureusement, j'ai pas trouvé de stage pour continuer. Et donc j'ai dû décrocher, puisque en général quand vous êtes dans une école où il faut un stage pour faire une alternance, on vous laisse pas continuer si vous n'avez pas d'établissement qui paye. Et c'est l'argent qui domine le monde à peu près. Et je me suis retrouvé en décembre sans établissement encore une fois. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, je vais travailler. Donc j'ai travaillé pendant 6, 7 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, le temps de passer les deux épreuves qui m'avaient fait donc rater. Et c'est à ce moment-là, après 4 ans de lutte, que j'ai enfin eu un diplôme au-delà du bac. Et donc après, j'ai eu le choix de continuer à travailler, puisque j'étais déjà en CDI, ou alors je pouvais continuer mes études, donc ce que j'ai fait, puisque pour aller au Japon, je savais qu'il fallait que j'aie au moins un bac plus 3, en tout cas c'était ce qui était requis à l'époque. Et donc j'ai continué, j'ai cherché une école d'ingénieur en informatique, j'en ai trouvé une, mais ça me semblait un petit peu de l'arnaque, il fallait payer 2000 euros, faire un stage en alternance avec... à 300 euros par mois, et en plus, c'était le diplôme n'était même pas certifié. Donc, je me suis dit, tant qu'à se faire arnaquer, autant aller dans une école de commerce comme ça, on apprend les dessous de la machine. Donc, j'ai fait une école de commerce. En plus, cette école de commerce me permettait de partir au Japon la même année en fait. Donc, j'ai commencé, j'ai fait 6 mois à Paris, ensuite je suis parti faire quelques 3 mois de cours à New York, et ensuite j'ai fait un stage au Japon, en tout cas j'ai cherché mon stage au Japon pendant 2 mois avant de trouver in extremis le 31 août 2009. Et j'ai pu faire un stage d'un mois, puisque en fait ma rentrée était décalée et je commençais en octobre, donc ça me permettait d'avoir tout le mois de septembre pour faire le stage, ce que j'ai fait. Et à partir de là, je suis revenu, j'ai fini ma J'ai fait la présentation de mon stage et tout, et ensuite j'ai commencé sur un master 1, donc toujours dans la même école. Et j'ai commencé à faire les 6 mois à Paris, et ensuite on devait faire 6 mois de stage n'importe où. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de décrocher, et c'était déjà prévu depuis mon entrée en fait dans cette école que, arrivé aux 6 mois de stage, j'allais faire un working holiday. Donc, arrivé au mois de février 2010, je suis parti à l'ambassade du Japon. J'ai fait ma demande de working holiday qui a été acceptée. Donc, j'ai eu le visa le 28 février 2010. Et de là, j'ai attendu d'avoir mes derniers examens pour partir. Et je suis parti le 1er avril 2010 au Japon. Et voilà. Et voilà pour mon parcours. C'était assez court, mais c'était long en fait. Parce que ça m'a pris pas mal d'années en fait. De 2003, l'année où j'ai eu mon bac, jusqu'à 2010, ça fait 7 ans quand même. 7 ans pour arriver au Japon, sachant qu'ensuite, j'ai dû aussi gambarimasu, donc j'ai dû faire plein d'efforts ici au Japon. Mais au final, ça a payé. Donc, même si vous avez des difficultés à l'école, même si c'est dur, accrochez-vous, franchement, accrochez-vous, ça vaut le coup, parce que une fois que vous avez les diplômes qui sont un peu nécessaires ici, surtout pour l'immigration, parce que c'est l'immigration qui impose d'avoir des diplômes. Alors maintenant, il y a toujours des cas particuliers, dont je vais vous parler tout de suite. Donc moi, j'ai un ami qui lui n'a pas de bac, qui a essayé d'avoir un bac pro, mais qui l'a pas, et qui aujourd'hui travaille au Japon. Donc c'est un cas peut-être particulier, j'imagine qu'il y en a d'autres, hein. Mais il a essayé, je crois qu'il a comme diplôme, il a un CAP, CAP mécanique ou automobile, mécanique auto, je crois, voilà, ouais, je sais ça, ouais. Un CAP mécanique auto. Et donc aujourd'hui, il travaille au Japon, il a un visa de travail en bonne et due forme, il a un visa de travail de 3 ans, je crois, et il travaille ici. Mais c'est un cas particulier, donc j'ai pas envie de donner trop d'espoir en vous disant que même avec un CAP, vous pouvez venir travailler au Japon, c'est-à-dire que c'est des conditions où, déjà, d'une part, il faut parler japonais à un certain niveau. Il faut parler anglais également, puisque la plupart des entreprises vont pas vous embaucher pour votre japonais. Ce sera un plus, on va dire, mais on va vous embaucher pour votre niveau d'anglais, pour votre expérience, pour votre expertise dans un autre domaine, forcément, parce que voilà, on peut pas vous embaucher parce que vous parlez japonais, dans le sens où le japonais, il est parlé par 127 millions d'âmes, quoi, et sûrement mieux que vous et moi y compris. Niveau de japonais, il est bon, mais il est pas, il vaut pas celui d'un japonais, même d'un collégien, quoi, absolument pas. Et donc, on vous embauche pour vos compétences autres que le japonais. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur vos autres compétences. C'est pour ça qu'il faut pas être omnibulé uniquement par l'apprentissage de la langue. Le japonais, oui, c'est important. Oui, ça vous permet de travailler ici, mais c'est secondaire. Je dirais même que c'est même la troisième roue du carrosse, ou la troisième roue du tricycle, si vous voulez. Vous avez les deux premières roues qui sont les diplômes dans un domaine qui est, entre guillemets, plus ou moins recherché au Japon. Donc, vous préférez des domaines comme la finance, l'import-export, l'informatique, le commerce international, le luxe, ce genre de domaine, quoi, l'ingénierie. Le contrôle de finances, bref, vous avez des domaines qui sont recherchés au Japon. Vous pouvez voir ces domaines-là facilement quand vous regardez les offres d'emploi sur Career Cross ou Daijob. Vous trouverez ça en lien dans la description de cet épisode. Mais vous avez des domaines qui reviennent tout le temps, et des jobs qui reviennent tout le temps, où en tant qu'étranger, vous avez. Pas un privilège, mais quand même vous avez des avantages de travailler plus facilement dans ces domaines-là. Après, tout le monde n'est pas fait pour faire de très longues études, j'en conviens, mais honnêtement, voilà, ça vous coûte pas grand-chose de faire de l'alternance, il suffit juste de trouver un stage. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous travaillez déjà, vous pouvez faire une validation d'acquis des expériences dans une université ou dans un dans une institution comme le CNAM. Donc le CNAM, c'est le Centre National des Arts et Métiers. Donc vous pouvez faire une VAE, une valorisation des acquis par l'expérience. Et avec ça, vous pouvez par exemple enchaîner sur une licence 3 ou un Master 1, bref, quelque chose qui chapeautera un petit peu tout ce que vous avez validé comme acquis et qui vous donnera un diplôme. Voilà. Après, vous avez aussi toutes les certifications, ou plutôt les écoles qui sont reconnues RNCP, enfin je sais plus comment ça, enfin je connais plus la description exacte, mais je sais que voilà, vous avez niveau 2 et niveau 1 qui sont équivalents au niveau master. Donc au Japon, de toute façon, tout le monde s'en fout de ce que veut dire RNCP ou quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre, une fois que vous avez votre diplôme dans une de ces écoles privées, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la traduction comme quoi c'est équivalent à tel niveau en japonais. Et ça passe. L'immigration, tout ce qu'elle veut, c'est que vous montrez que vous avez le niveau, c'est tout. Donc honnêtement, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de serrer les dents, serrer les fesses quelques années, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est pas votre truc, parce qu'au final, vous allez être remboursé, entre guillemets. Sachant qu'en plus, il faut savoir que nous, en tant que Français et francophones, on a une chance énorme, et qu'on s'en rend vraiment pas compte, c'est que les études en France, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien, ça coûte que dalle. Moi, je travaille avec des Américains, des Australiens, des Anglais. Et quand je vois les frais qu'ils payent pour l'université, c'est genre 150 000 dollars, c'est 35 000 dollars, c'est des trucs que vous pouvez acheter une maison avec, même deux maisons avec, en fonction de là où vous achetez. Et eux, quand moi je travaille et que le salaire rentre tous les mois, eux ils travaillent, le salaire, pour ceux qui n'ont pas les parents qui sont riches, ben, il part à la banque. Il partira à la banque pendant encore 10-20 ans. Enfin, ça dépend des gens. Mais bon, pour eux, ils ont la chance d'avoir un salaire super élevé. Donc ça disparaît vite. Mais pour ceux qui ont des métiers un petit peu moyens, qui n'ont pas des revenus élevés, ils ne s'en sortent presque pas. Hein. C'est pour ça que vous avez aux États-Unis plein de... Enfin, vous avez un mouvement, là, les 1999, je ne sais pas quoi, là. Wall Street 1999, des gens qui font partie, enfin il y a 1% des plus riches et le reste de la population qui sont pauvres. Vous avez plein d'étudiants dedans, des étudiants pauvres qui avaient des crédits sur des dizaines d'années, mais qui n'étaient pas capables de trouver un emploi et donc qui n'étaient pas capables de rembourser les crédits. Et donc le pire, c'est que aux États-Unis, vous avez un système qui s'appelle vous pouvez faire banqueroute personnelle. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez dire que bon voilà, j'ai trop de dettes, donc je suis surendetté, donc vous pouvez effacer mon ardoise et je repars à zéro. Donc pendant quelques années, vous n'avez plus droit aux cartes de crédit et tout, mais vous repartez à zéro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce système-là, les crédits étudiants ne sont pas comptés. Vous ne pouvez jamais effacer un crédit étudiant. C'est incroyable, mais c'est les États-Unis, quoi. Et nous, on a l'avantage de ne pas avoir à payer ce genre de truc faramineux. Enfin, bon, après, si vous faites une école de commerce comme moi, ou si vous faites une école qui coûte un peu, ça va coûter un petit peu de sous, quoi. Mais c'est pas les États-Unis, quoi. C'est pas 150 000 dollars, c'est pas 85 000. C'est quelque chose qui, voilà, vous prenez un crédit pour rembourser 200, 300 euros par mois en 3-4 ans, c'est fini, quoi. On n'en parle plus. Aux États-Unis, ben, moi, je me souviens que j'avais des potes, un pote canadien, il avait genre 35 ans et il payait encore son crédit, quoi. Donc voilà, honnêtement, les études en France, c'est pas cher. Il faut en profiter, il faut se donner à fond. C'est juste pour quelques années. Et une fois que vous l'avez, ensuite, paf, vous vous barrez, vous faites ce que vous allez faire, vous faites ce que vous voulez faire. Et voilà, quoi. Donc accrochez-vous si c'est pas votre truc. Moi je vous le dis, c'est pas mon truc les études, mais je me suis accroché pour avoir le minimum viable. Et aujourd'hui d'ailleurs, je me demande si je devrais pas y retourner pour avoir plus. Mais après, c'est un choix personnel, mais pour l'instant j'ai pas le temps, j'ai pas la tête à ça. Mais voilà, ben, c'était juste pour vous dire de vous accrocher et voilà. Bon courage, ciao, à la prochaine.